l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. Se soigner grâce aux abeilles. Eh oui, c'est ce que permet l'apithérapie. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas de votre faute. Cette médecine millénaire qui utilise différents produits de la ruche a été un peu oubliée par chez nous. Heureusement, certains ont gardé les savoirs ancestraux et petit à petit, la médecine occidentale moderne allopathique redécouvre ce qui ne coûte pas cher et ne pollue ni les corps ni l'environnement.
Alors, chaque apiculteur a un numéro d'apiculteur. Voilà qui commence par le numéro du département, ça c'est obligatoire. Dès qu'on a une ruche, même une ruche, il faut la déclarer.
Et on paye des impôts ?
Alors, on paye des impôts à partir de la 10e ruche, à partir de la 11e ruche exactement. À partir de la 11e ruche, il y a un montant forfaitaire qui est déterminé pour la ruche, qu'il faut rajouter à la déclaration de revenus. Si on a 10 ruches, rien du tout. Et à partir de la 11e ruche, il faut déclarer les 11 ruches.
Même si on ne vend pas le miel ?
Oui, même si on ne vend pas le miel. Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qu'on fait avec les produits de la ruche ? Parce qu'il n'y a pas que le miel qu'on récolte dans les ruches. Et il y a toute une gamme.
Oui. Le plus connu, c'est le miel, bien sûr. Le miel qui sert à être mangé, mais qui sert beaucoup en apithérapie aussi, de plus en plus. Donc c'est soigné par les abeilles, ou par les produits de la ruche plutôt, pour être précis. C'est une technique qui est assez peu développée en France, alors qu'il y a plein de pays qui l'utilisent beaucoup. L'Espagne, beaucoup l'Allemagne, et en Europe peut-être le leader c'est la Roumanie. Et le leader mondial c'est Cuba. Paradoxalement, c'est à cause du blocus américain, ils ont développé l'apithérapie et il y a pas mal de médecins actuellement qui vont se former à Cuba justement pour ça. Et puis toute l'Amérique latine, ils ont une tradition, notamment l'Argentine, une tradition depuis longtemps d'utilisation des produits de la ruche pour se soigner.
Et nous aussi peut-être qu'en Europe avant on utilisait beaucoup.
Oui, on l'utilisait beaucoup, mais ça s'était arrêté avec le développement des antibiotiques. Donc là, dans les années 50, ça s'était arrêté d'un seul coup et c'est vrai qu'on a perdu le peu de savoir qu'on avait là-dessus.
L'apithérapie, on peut soigner beaucoup de choses avec les produits des abeilles ?
Oui, on peut soigner pas mal de choses. Le miel est très connu comme un produit cicatrisant, qui est de plus en plus utilisé dans les hôpitaux d'ailleurs. Et c'est un antitussif très efficace aussi.
Pour empêcher de tousser.
Voilà, pour empêcher de tousser, pour arrêter les quintes, etc.
La fameuse tisane avec une cuillère de miel.
Non, en fait, pour être efficace, il faut la prendre comme ça. Mais il faut prendre le miel. Il faut prendre le miel comme ça même et le garder dans la bouche le plus longtemps possible. Voilà, on garde une cuillerée de miel au fond de la gorge et ça calme l'envie de tousser assez rapidement.
Donc par exemple, les bonbons au miel, c'est ça l'intérêt aussi,
voilà,
de garder
les bonbons
longtemps.
Au miel aussi, oui, tout à fait. Ils sont d'ailleurs assez efficaces contre la toux. Ensuite, le pollen est très utilisé aussi. Alors le pollen sec qu'on trouve dans le commerce ou encore mieux frais. Alors enfin, quand on dit frais, généralement il est congelé. Parce que quelquefois au séchage, il peut perdre une partie de ses qualités. Alors le pollen est utilisé comme régénérant des cellules, anti-fatigue, pour donner un coup de fouet au moral aussi. Donc il est très riche en protéines, déjà comme nourriture tout simplement. Donc au petit déjeuner, très utilisé. Bon, il y en a qui s'en servent dans les salades, donc en cuisine, les gâteaux. Après, le pollen, pour terminer, il est utilisé aussi en prévention pour les maladies de la prostate aussi, ou en curatif aussi. Le miel, le sucre, justement, parce que le miel contient du saccharose, mais peu ensuite, il contient surtout du glucose et du fructose, puis plein de minéraux. Donc, c'est vrai que d'un point de vue aliment, il est quand même très, très intéressant, le miel.
Donc, le miel, c'est un sucre très intéressant d'un point de vue nutritionnel, mais il y a aussi, donc, vous parlez de vitamines, des minéraux.
Oui.
Mais peut-être que le pouvoir du miel et des produits de la ruche dépasse un peu notre entendement. je veux pas parler de choses oui. un peu... Enfin, je veux dire, oui, peut-être qu'on n'a pas encore bien compris non. comment ça fonctionne.
Non, on n'a pas encore compris comment ça fonctionne, ça c'est sûr, puisque déjà, on ne connaît pas tous les produits qui sont dedans. Et encore, le miel, c'est un des plus connus de la ruche. Bon, le pollen, on ne connaît pas encore tous les éléments qu'il y a dedans. Si on parle de la propolis, c'est encore pire, on connaît très très peu de choses dessus, quoi.
Alors, la propolis, voilà. c'est encore une autre substance de, oui. qu'on trouve dans tout les fait, ruches.
Oui. La propolis, alors la propolis, les abeilles ramassent ça sur les bourgeons des arbres. Elles s'en servent pour bétonner leur ruche, c'est-à-dire que tous les éléments de la ruche sont collés avec de la propolis. S'il y a un animal qui meurt dedans, parce qu'elle le tue, un prédateur éventuellement, qu'elles ne peuvent pas sortir, elles vont l'enduire de propolis aussi. Et en fait, il est momifié, et donc ça permet qu'il n'y ait pas de maladie qui se développe à l'intérieur de la ruche par la décomposition du cadavre.
C'est un peu le ciment des abeilles.
Alors, c'est le ciment, et c'est un produit qui est antibiotique et antiviral aussi. On s'en sert comme tel, puisque les laboratoires achètent la propolis pure aux apiculteurs. Mais les apiculteurs l'utilisent aussi. Disons que la propolis, on la récolte, on la dissout dans de l'eau, ensuite dans l'alcool, et on en fait un produit antiviral et antibactérien qui est utilisé aussi pour les plaies, contre la grippe, contre donc tout ce qui peut arriver en hiver, etc. Donc en préventif et en curatif d'ailleurs.
D'accord, donc ça, c'est certainement, elle l'utilise aussi dans la ruche pour lutter elle-même contre des maladies.
Oui, ça c'est sûr, puis ça crée une ambiance dans la ruche, parce que tout est bétonné avec de la propolis, quoi. Donc elles sont dans un milieu antibactérien et antiviral, ce qui ne les empêche pas d'attraper des maladies quelquefois, quand même. Mais enfin, elles sont surtout protégées par ça. D'ailleurs, la propolis est connue depuis très très longtemps, puisque les pharaons étaient embaumés, entre autres, avec de la propolis. Il n'y avait pas que de la propolis. Et les légionnaires romains, dans leur paquetage, ils avaient une boule de propolis aussi, pour se soigner, pour les plaies, puis tout, quoi. Ils se soignaient, c'était à peu près tout ce qu'ils avaient dans la trousse à pharmacie. Hein. Donc
il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a comme autre produit dans la ruche?
Alors, la gelée royale. Il faut des races d'abeilles qui soient très éleveuses pour ça. Donc c'est pour ça que là, on va utiliser surtout des abeilles italiennes qui ont tendance à élever beaucoup de rennes. Parce que pour produire la gelée royale, on leur fait croire qu'il n'y a pas de rennes. C'est-à-dire on enlève la renne ou on la coince dans un coin de la ruche. Et donc là, elles vont élever 80 ou 100 rennes. Et le troisième jour, on récupère avec une petite pompe la gelée royale qu'il y a dans les cellules. Mais c'est des milligrammes qui sont récupérés chaque fois, d'où le prix assez élevé de la gelée royale.
Alors, mis à part qu'elle est très bonne, cette gelée royale, qu'est-ce qu'elle apporte? C'est pas justement, vous parliez de médecine préventive, est-ce qu'on ne le préconise pas comme ça?
Oui, médecine préventive, beaucoup contre les grosses fatigues, les dépressions, etc. C'est un produit qui est très énergisant, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en prendre le soir avant de se coucher, parce que sinon on a vraiment du mal à s'endormir. Voilà. Donc il faut en prendre très très peu et le matin uniquement, parce que c'est un produit qui est quand même très très costaud. Et puis l'autre produit qui est utilisé, c'est le venin d'abeille. Le venin d'abeille par piqûre directement par l'abeille. Alors il y a deux façons de l'utiliser, soit par piqûre de l'abeille, soit il y a des systèmes de récupération de venin. On met une plaque électrique sur la ruche qui excite les abeilles, donc elles viennent piquer là-dessus et donc on récupère le venin. Mais ça rend les abeilles très très agressives, il ne faut pas rester dans les environs. Quand on fait ça, c'est assez peu utilisé. On utilise surtout les piqûres d'abeilles.
Mais alors, ça soigne quoi?
Alors, le plus connu, bien sûr, c'est la sclérose en plaques. Il y a quand même pas mal de personnes qui se soignent avec les piqûres d'abeilles. Ce sont des séries d'une dizaine de piqûres une fois par semaine.
Mais ça fait mal.
Ça fait mal, mais on s'habitue aux piqûres d'abeilles. Hein. On s'habitue, les gens qui se font piquer par... il faut pas qu'elles soient allergiques, bien sûr. Mais après, on s'habitue très très vite aux piqûres d'abeilles. Disons que même nous, hein, là, à partir de l'été, à force de se faire piquer, on sent juste la piqûre. On n'en fait plus, on n'a plus mal. Bon, après, en début de l'année après, ça revient. Hein. On recommence presque, oui. Je ne veux pas dire à zéro, mais...
Après. Donc c'est le corps humain qui ferait comme une sorte de vaccin antidouleur.
Oui, tout à fait, oui. Oui.
Donc ça veut dire que le corps humain est capable de sécréter quand même quelque chose qui atténue la douleur.
Oui, tout à fait, oui. Ah. Donc le venin, bon, c'est un produit dont on ne connaît pas très mal la composition aussi, mais il est très très efficace donc, contre la sclérose en plaques. On l'utilise contre la maladie de Parkinson, contre les arthrites dégénératives, etc. Donc c'est pas mal utilisé dans beaucoup de pays. Oui.
Ah oui, et puis ça, ce sont des maladies graves oui. Qui sont difficilement soignables.
Très difficile à soigner, oui. Oui, effectivement, oui. Donc voilà, il faut par contre que les gens puissent supporter les piqûres d'abeilles, ce qui n'est pas évident. Il faut pouvoir supporter une dizaine de piqûres chaque semaine, quoi.
Et puis chaque personne doit réagir différemment. Il y a des gens qui sont hautement allergiques, d'autres qui doivent bien réagir.
Oui, voilà, tout le monde ne réagit pas pareil. Donc c'est pour ça qu'en général, ils font des tests au départ. Hein. Ils commencent avec une piqûre pendant quelques semaines pour voir comment ils réagissent.
Alors comment on doit réagir un petit peu, c'est un petit peu hors propos, mais comment on doit réagir si on se fait piquer par une abeille et que ça fait très très mal? Est-ce qu'il y a un petit truc?
Alors, il faut enlever le dard doucement, le plus vite possible, parce que le venin ne se vide pas de suite. Hein. Il y a une poche à venin qui va se vider progressivement.
En combien de temps?
Il faut quelques minutes. Voilà. Donc quand on se fait piquer, il faut essayer de faire glisser le dard à l'extérieur. Si on l'enlève vite, les conséquences sont quand même assez limitées.
Et alors, est-ce que c'est vrai que si on rapproche sa brûlure d'une source de chaleur, ça atténue la douleur?
Donc il y a deux choses qui l'atténuent, c'est la chaleur et l'alcool. Soit vous buvez beaucoup, soit vous faites chauffer le... C'est au choix.
Par exemple, une cigarette allumée très très rapprochée.
Oui, enfin, il ne faut pas se brûler parce que là, ce serait pire que la piqûre. Donc, il y a quand même une limite à trouver.
D'accord. Ouais. Si on continue donc sur les produits de la ruche, bien sûr, il y a la cire d'abeille.
Oui, alors la cire qui est utilisée en cosmétique pour certains produits, mais aussi pour faire du cirage en caustique, etc.
Donc de meubles, de chaussures.
Voilà, de meubles, oui. Ouais. Meubles chaussures, meubles extérieurs, tout ce qui se met à l'extérieur.
Qui a des propriétés, donc du coup, si on le met dans des cosmétiques, ça a des propriétés spéciales
Oui, semblerait, oui. Il y a certains produits, je ne connais pas, qui sont faits à partir de cire d'abeille, oui.
Peut-être comme le cuir et le bois, c'est nourrissant pour la peau.
Peut-être, oui, mais effectivement, pour la peau, c'est utilisé, oui. Il y a des crèmes pour la peau qui sont à base de cire d'abeille, oui, effectivement. Donc ça fait quand même pas mal de produits qui sont utilisables dans la ruche, oui.
Et alors vous, à Herléac, vous avez des ruchers, vous recevez donc les gens pour sensibiliser, oui. Informer sur les abeilles, sur leur utilité, oui. Mais vous avez aussi donc un magasin en plein cœur de Bayonne, oui. Où vous vendez des produits issus des ruches.
Oui, donc voilà, on est plusieurs petits producteurs à vendre là-dedans. On a mis en place une charte qualité entre nous pour essayer de vendre des produits qui soient le meilleur possible. Dans la mesure où on n'en produit pas beaucoup, on s'est dit autant produire des produits qui sont de très bonne qualité. Et puis l'objectif, c'est surtout de faire connaître les miels, les différents miels. Que les gens sachent qu'il y a beaucoup de miels, qu'il y a beaucoup de goûts, qui sont d'ailleurs très très différents. Et puis bon, puis les gens goûtent, ça leur plaît ou ça leur plaît pas, en général ça leur plaît. Il y a beaucoup de gens qui viennent, ils n'aiment pas le miel.
Ils viennent chez vous quand même?
Ils viennent souvent accompagner quelqu'un. Et quand on arrive à leur faire goûter le miel, ils aiment parce que en fait, ils ont goûté de mauvais miel. Ils ont goûté de mauvais miel qui leur a laissé une mauvaise impression. Et quand on leur fait goûter toute cette gamme de produits, ils sont quand même très très étonnés des goûts des miels. Parce que c'est vrai que dans le commerce, on peut trouver des miels qui sont vraiment... qui sont pas bons, ça c'est sûr.
On a rencontré dans le cadre des émissions L'Ours et la Carotte des gens qui en Bretagne ont des grosses difficultés à s'approvisionner au niveau français, qu'il y a beaucoup moins de production de miel en Europe, en France. Ah ben, ça c'est dû aux maladies, aux problèmes de régression des quantités d'abeilles.
Tout ça a fait que le nombre d'apiculteurs a baissé. La consommation française, elle est à peu près de 60 000 tonnes par an. La consommation, dans les années, en 1995, on produisait à peu près 30 000 tonnes. En 2013, on a produit 15 000 tonnes. Donc c'est pour dire la chute vertigineuse.
Un quart de ce qui est consommé.
Un quart, c'est-à-dire que les trois quarts actuellement sont importés. Et c'est vrai que les producteurs de miel ont beaucoup de mal à s'approvisionner, hein. Ça c'est évident, oui. Nous, on arrive à s'approvisionner parce qu'on a un chiffre d'affaires, c'est un petit magasin, donc c'est sûr que si on devait vendre des tonnes, on n'y arriverait pas, ça c'est évident.
Et alors du coup, ça, sur la charte de qualité dont vous parliez, quand on achète du miel au supermarché, c'est pas du tout la même qualité. Est-ce qu'on peut même penser prendre un miel de tellement mauvaise qualité parce qu'il est contaminé, qu'il serait pas bon pour la santé?
On a quelques craintes avec les miels chinois. On a pas mal de craintes avec les miels chinois, c'est qu'ils font un peu n'importe quoi là-bas. Ce qui n'empêche que dans le tas, il y a peut-être des bons produits aussi, mais...
Ils feraient quoi, les Chinois?
Alors, les Chinois, puis il y a d'autres pays aussi qui utilisent beaucoup, beaucoup d'insecticides, insecticides ou différents produits phytosanitaires qu'on retrouve forcément dans le miel après. Donc il y a ça, il y a les produits qu'on trouve dans le miel, et aussi il y a une fraude qui est quand même assez importante. Comme le miel coûte de plus en plus cher et qu'il y a une grosse demande, il y en a qui font ce qu'on appelle de l'adultération, c'est-à-dire qu'ils ajoutent du sirop dedans. Ils font un sirop avec de l'eau et du sucre. Pour deux parties de miel, on rajoute une partie de sirop qui coûte rien du tout. Donc voilà, ça fait des bénéfices qui sont énormes. Mais au niveau du goût, on ne peut pas le détecter facilement. Donc il faut faire des analyses pour le trouver. Par contre, quelqu'un qui pense manger du glucose, il est en train de se harter de saccharose, quoi. C'est-à-dire le plus mauvais sucre, quoi.
C'est pas du tout la même assimilation après
non,
au niveau du corps humain.
Pas du tout, pas du tout.
Du coup, voilà, dans un mauvais miel, on peut avoir un cocktail de pesticides. C'est ça l'intérêt, notamment, de prendre un miel de producteur qu'on connaît, qui nous garantit que ces ruchers sont dans des environnements relativement protégés.
Oui, tout à fait, oui. Tout à fait, il faut essayer de connaître l'origine du miel, hein, parce qu'il y a quand même certains miels, vous lisez l'étiquette, on est absolument incapable de savoir d'où il vient. C'est tellement fouillis que quand on voit un miel de différents pays d'Europe, ou différents pays d'Europe et du monde, donc c'est même pas la peine de mettre une étiquette dans ces cas-là.
Se consolar, que agora não dá mais pé nem nunca mais vai dar. Também quem mandou se levantar, quem levantou pra sair perde o lugar. E agora cadê Deus? nunca funcionou. Cadê que ele nada resolveu? Mas eu, você já entrou na de voltar. E agora fica na tua que é melhor ficar. Porque vai ser fogo me aturar. Quem cai na chuva só tem que se molhar. E agora cadê, cadê você? Cadê que eu não vejo mais? Cadê? Pois é, quem te viu e quem te vê? Guaguaraguaguá. Mas todo mundo se admira da mancada que a Terezinha deu, que deu no pira, mas ficou sem nada ter de seu. Ela não quis levar fé na virada da maré. Mas que malandro sou eu pra ficar dando colher de chá. Se eu não tive colher, vou deitar e rolar. Você já entrou na de voltar, e agora fica na tua que é melhor ficar. Porque vai ser fogo me aturar. Quem cai na chuva só tem que se molhar. E agora cadê, cadê você? Cadê que eu não vejo mais? Cadê? Pois é, quem te viu e quem te vê? Guaraguaraguá. Aqui, eu mesmo que venta lá e volta pro mandingueiro, a mandinga de quem mandinga. O vento que venta aqui, eu mesmo que venta lá e volta pro mandingueiro, a mandinga de quem mandinga. O vento que venta aqui, eu mesmo que venta lá e volta pro mandingueiro, a mandinga de quem mandinga. O vento que venta aqui, eu mesmo que venta lá e volta pro mandingueiro, a mandinga de quem mandinga. Mas todo mundo se admira da mancada que a Terezinha deu, que deu no pira, mas ficou sem nada ter de seu. Ela não quis levar fé na virada da maré. Mas que malandro sou eu pra ficar dando colher de chá. Se eu não tive colher, vou deitar e rolar. Você já entrou na de voltar, e agora fica na tua que é melhor ficar. Porque vai ser fogo me aturar. Quem cai na chuva só tem que se molhar. E agora cadê, cadê você? Cadê que eu não vejo mais? Cadê? Pois é, quem te viu e quem te vê? Aqui eu mesmo que venta lá e volta pro mandingueira, mandinga de quem mandinga. O vento que venta aqui, eu mesmo que venta lá e volta pro mandingueira, mandinga de quem mandinga. O vento que venta aqui, eu mesmo que venta lá e volta pro mandingueira, mandinga de quem mandinga.
De plus en plus, il y a de ruchers urbains. Mmh. Et on se rend compte que apporter des abeilles, apporter des ruchers en pleine ville, c'est très important pour l'écosystème urbain.
Oui, d'autant plus que il y a des villes où les abeilles elles sont vraiment très très bien. Hein. À Paris, quand on voit le rucher du Luxembourg, c'est quand même assez étonnant les rendements qu'ils ont.
Jardins du Luxembourg.
Ouais, dans le jardin du Luxembourg, il y a quand même un rucher qui tourne très très bien. C'est un rucher pédagogique aussi, où ils font de l'initiation à l'apiculture. Mais seulement à Paris, ça fait une douzaine d'années que l'utilisation des pesticides est interdite par la ville de Paris elle-même, enfin pour les espaces verts. Donc ils ont une mortalité qui est relativement faible.
Ça devient un îlot voilà. pour les abeilles.
Et donc la législation vient de changer là maintenant, puisque ce sera le cas de toutes les communes, je crois pour en 2020. Il faut que les communes se préparent donc à ne plus utiliser de produits phytosanitaires, de pesticides, donc voilà, pour leur jardin. Et ce sera une très bonne chose pour tout le monde. Et puis pour nous aussi, parce que déjà on va peut-être en inhaler un peu moins, c'est involontairement.
Donc vous recommandez quand même de manger ce miel peut-être un peu contaminé des villes ?
On ne sait pas s'il est contaminé, parce que d'ailleurs il y a plusieurs analyses qui ont été faites, ils n'ont pas montré de contamination particulière. On pensait justement qu'il y aurait des contaminations par métaux lourds, mais paradoxalement on n'en trouve pas.
Les métaux lourds, donc qui sont dans l'air,
qui sont issus de pollution, puis des moteurs de voitures, etc. Donc, a priori, c'est pas un miel qui a l'air si mauvais que ça. Bon.
Donc, la recherche continue pour savoir pourquoi le miel et les différents produits des abeilles sont aussi bons pour la santé.
Oui.
Et notamment, peut-être aussi savoir le miel d'acacia, le miel de conifère, le miel de prunier. Chacun a peut-être des propriétés différentes.
Oui, c'est possible. C'est possible, mais oui, on sait qu'il y en a certains qui sont meilleurs pour la toux, bien que ça n'ait jamais vraiment été prouvé. Le miel pour la cicatrisation, bien sûr, c'était un professeur d'un hôpital qui avait soigné une personne qui avait une gelure au doigt du pied, donc il avait empêché l'amputation, et il avait fait ça avec du miel de thym. Et donc, c'était paru dans la presse comme ça, et c'est vrai que les gens, ils recherchent partout du miel de thym. On le voit au magasin, ils viennent nous demander du miel de thym, parce que ça cicatrise. Et donc, à ce médecin, un jour, un journaliste avait demandé « Pourquoi vous avez utilisé le miel de thym ?» Il a dit « C'est le seul que j'avais à la maison. » Donc, en fait, ce n'est pas un produit qui est plus cicatrisant qu'un autre, quoi. En fait, moi, je crois qu'il faut acheter un miel qui a bon goût, parce que, voilà, pour le manger, et puis, puis on cicatrise avec, quoi. Il n'y a pas de problème.
Parce qu'il y a aussi l'effet placebo qui est très important, qui est reconnu par la médecine moderne dans les médicaments. Quand on croit qu'on va guérir, ça marche mieux.
Exactement, voilà. Mais après, dans la cicatrisation, je ne sais pas si l'effet placebo intervient beaucoup, mais c'est ça, quoi. Donc,
très bien. Alors, Erléac, les coordonnées de l'association, si on veut venir visiter vos ruchers écoles, si on veut venir au magasin.
Voilà, il faut, donc c'est ouvert le mercredi et jeudi après-midi, et vendredi et samedi toute la journée.
Donc rue d'Espagne à Bayonne. D'Espagne,
31 rue d'Espagne à Bayonne, voilà.
Erléac, ça veut dire ?
Alors c'est les abeilles, voilà. Donc on vend des produits de la ruche, et on vend aussi du matériel pour les ruchers. Voilà, donc,
vous pouvez aider les amateurs.
Voilà. Voilà, on les conseille au niveau de l'achat du matériel, et puis ils peuvent trouver le matériel de base, disons. Tout le matériel de base. Après, le reste, c'est sur commande, mais déjà, le matériel de base, il y est. Voilà, c'est-à-dire les tenues, les ruches, le matériel pour ouvrir une ruche, la cire, etc. Tout ça, on le trouve.
C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur Internet.